9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Le fonctionnaire tueur de la préfecture de police de Paris avait bien basculé dans l'islam radical et tout indique qu'il s'agit d'un nouvel attentat terroriste. Caroline Fourest sera ma première invitée, non pas la journaliste et essayiste, non la cinéaste Caroline Fourest, qui poursuit ses combats en réalisant une fiction au cinéma. Ça s'appelle « Sœurs d'armes », c'est un événement, le film sort mercredi prochain. Film de guerre puissant, impressionnant, résolument féministe, qui montre comme jamais la barbarie islamiste et le courage de ceux qui la combattent. Où va le monde? Où va ce monde que l'Amérique a cessé de dominer? Trump se désengage en répétant « America first », la Chine étend son emprise, mais la planète n'a plus de leader. Et alors, nous dit le professeur de Sciences Po Bertrand Badi, pour qui il n'y a pas grand-chose à regretter de la fin de l'hégémonie américaine. Au générique également, André Manoukian qui débute un seul en scène irrésistible à travers l'histoire de la musique et Christophe Honoré, réalisateur qui mêle le fantastique à la comédie sentimentale dans sa chambre 212 avec Chiara Mastroianni.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Caroline Fourest.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous voici cinéaste, réalisatrice de « Sœurs d'armes ». Je parlais d'un film événement parce qu'il donne à voir ce qui n'a quasiment jamais été montré ainsi sur un écran, la guerre de Daesh, le martyre des femmes, la persécution des yézidis, la guerre contre Daesh, la résistance des Kurdes, tout ce dont nous parlons depuis 10 ans, cette violence et ce totalitarisme islamiste qui continue de nous atteindre et de tuer ici en France. D'ailleurs, c'est le massacre de Charlie Hebdo, Riz était à votre place hier matin. C'est Charlie qui a été le déclic pour ce projet de film ?
Ça a été mon déclic personnel. C'est ce qui m'a poussé à avoir besoin de fiction, de trouver un nouveau langage, de pouvoir exprimer les choses peut-être plus par les émotions que par la raison. Mais ensuite, j'ai été frappée par des vidéos, par exemple, de Daéchiens au marché aux esclaves qui parlaient de ces femmes yézidis qu'ils achetaient et qu'ils voulaient échanger contre des pistolets en s'esclaffant. J'ai été frappée surtout par des tas d'images qui me donnaient envie d'en voir plus. Et c'est une des choses qui frappe visiblement ceux qui ont vu le film dans les avant-premières. Ils m'ont tous dit, beaucoup m'ont dit, je pensais savoir toute cette guerre et en fait, je n'avais pas vu tout ça.
On n'avait pas vu, mais vous n'avez pas songé à faire un documentaire pour autant ?
Non, je crois que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de plus épique, de plus grand public aussi. J'avais envie de parler aux jeunes, à des gens qui sont saoulés par l'actualité, comme je peux l'être, même moi, comme journaliste. J'ai été épuisée, moi, par le traitement très distancié ou au contraire très factuel de cette guerre, j'avais besoin d'être à côté de ces combattantes, au milieu d'elles, de voir tout le courage, toute l'énergie qu'il leur a fallu pour gagner cette guerre. Et puis, il y a quand même un truc incroyable dans cette guerre, c'est que des djihadistes qui nous ont terrorisés et qui continuent à nous terroriser, ouais, eux-mêmes ont eu une peur bleue d'être tués par des femmes parce qu'ils sont persuadés que ça allait leur coûter le paradis et les 72 vierges qui vont avec. Et j'ai rencontré des combattantes qui m'ont dit à quel point elles exploitaient cette peur en criant avant d'attaquer, en les voyant paniquer. Je me suis dit, mais si on ne fait pas un film de cinéma avec ça, sur quoi faisons ? Sur quoi faire du cinéma ?
Et ces combattants terrorisés par ces êtres impurs que sont les femmes aux yeux des djihadistes. C'est la première question qu'on se pose quand on voit votre film. On se dit, mais tout ce que vous montrez, c'est réellement produit. Donc il y a eu au Proche-Orient, si près de nous, des femmes vendues comme esclaves sexuelles qui ont trouvé la force de prendre les armes et de combattre leurs bourreaux.
Il y a des survivantes yézidis qui ont eu deux choix. Alors évidemment, la plupart des survivantes, celles qui se sont échappées après avoir été vendues comme esclaves et comme esclaves sexuelles, se sont retrouvées, et elles le sont encore, dans des camps de réfugiés, à espérer rentrer chez elles un jour, avec tout le poids de la honte, de tout ce que vous pouvez imaginer à vivre. Et puis, dans la même génération, il y en a quelques-unes. Et surtout, elles ont eu un modèle à leur côté, qui est celle de ces combattantes kurdes qui, elles, ont pris l'uniforme, une kalachnikov, et qui sont allées les défendre, et qui sont allées humilier et terroriser les bourreaux qui les avaient réduites en esclaves. C'est inouï comme renversement iconographique. C'est quand même pas dans toutes les guerres qu'on voit. On sait que les guerres passent sur le corps des femmes, mais que le corps des femmes soit une arme qui terrorise les misogynes, ça, vraiment, c'est le cœur du film. C'est le cœur du film qui est un film de guerre, qui est un film d'action. Ça va surprendre. C'est pas un film intello. C'est pas un film où on parle beaucoup. C'est un film où on agit, où on voit du spectacle. Mais je crois qu'à la fin de ce spectacle, notamment les jeunes, mais pas seulement, se diront, tiens, ces héroïnes, ça a quand même plus d'allure que tous les jeunes qu'on nous a montrés à longueur de JT qui s'engagent du côté de Daesh et qui s'engagent pour tuer.
Oui, il y a une facture délibérément hollywoodienne dans votre film. Caroline Fourest, qui sans doute va surprendre. Et puis je reviens à la réalité, il y a eu aussi bel et bien des volontaires internationaux qui se sont engagés, comme on le voit dans votre film, aux côtés des Kurdes.
Oui, comme au moment de la guerre d'Espagne, hein. Souvenez-vous, quand il s'agissait de résister au fascisme, eh bien, il y a eu des jeunes, des volontaires qui se sont engagés aux côtés des Espagnols antifascistes, et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette guerre. Et ce qui, moi, me sidère, c'est qu'on ne connaît pas les visages de tous ces jeunes qui sont morts pour nous défendre. Il y avait une jeune Anglaise, Anna Campbell, il y avait des moins jeunes aussi. Il y a une ancienne mannequin de 40 ans canadienne qui s'est fait appeler Tigerson sur le front, qui a combattu aux côtés du Kurde. Il y avait des franco-maghrébins, dont un est mort il y a quelques mois aux côtés des Kurdes. Il y avait une jeune Israélienne aussi. Il y avait de tout dans ces brigades, qui étaient soit dans des brigades internationales, soit intégrées aux brigades kurdes, et qui sont des enfants de la paix comme nous, mais qui, comme nous, à un moment donné, se sont dit « il faut faire quelque chose ». Et ils se sont engagés à corps et à cœur dans cette résistance, et souvent, ils y ont laissé leur vie.
Vous avez affiché certains de leurs vrais portraits dans le film, dans la tente du commando de femmes que vous montrez.
Il y a toute une grammaire narrative dans le film. En fait, ce qui est dans les posters, les médaillons, les écrans de télé, ce sont des vraies images de vrais héros ou de vraies héroïnes qui sont souvent mortes pour nous. Tout le reste est un vrai film de fiction avec des comédiens, avec des scènes d'explosion, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles. Mais vraiment, j'ai tenu par exemple aussi à insérer une scène où on voit de vraies femmes, yézidis, peshmerga. Tous les groupes sont représentés dans le film. Et ce groupe-là, je suis allée le tourner directement au Kurdistan irakien et on les a insérés comme un hommage à l'intérieur de la fiction. J'ai dû jouer aussi avec les uniformes parce que vous savez qu'il y a beaucoup de groupes kurdes dans cette guerre. Et j'ai voulu les réunir, moi, sous un même drapeau pour simplifier, pour la narration, pour que tout le monde comprenne que l'enjeu avant tout, c'est que tous les Kurdes soient réunis et se sont battus ensemble pour nous contre les djihadistes.
On est saisi par la scène d'ouverture du film qui est la prise d'un village yézidi par les forces de Daesh et qui fait penser, qui peut faire penser à ce qu'on a vu au moins au cinéma, parce qu'évidemment on l'a pas vu dans la réalité, mais à l'occupation et à la prise de village ou de ville, la conquête de ville par des nazis. Mais vous avez, Caroline Fourès, édulcoré la réalité parce que la cruauté de ces djihadistes dépasse parfois tout ce qu'on peut imaginer.
Ah oui, vraiment. J'ai montré le film à plusieurs survivantes yézidis, et notamment à Nadia Mourad, la prix Nobel de la paix, qui m'a dit « Tu sais, ce que tu montres au début sur le village, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon village. Même les dialogues sont vrais entre les villageois et les djihadistes. » Mais d'autres m'ont dit « Mais tu sais qu'on a subi bien pire que ça. » Et je leur ai dit, mais je sais que vous avez subi bien pire que ça. J'ai écouté des milliers de récits, des centaines et des centaines de récits. Mais je ne peux pas montrer aux gens de la paix ce que vous avez vécu. Ils ne le supporteraient pas. Et je voulais un film lumineux, je voulais un film sur la résistance, mais qui quand même explique la raison pourquoi des femmes se sont battues dans cette guerre et des hommes. Ce n'est pas une guerre où des hommes se sont engagés et des femmes parce qu'elles avaient envie de montrer leur virilité ou de montrer leurs muscles. C'est une guerre où vraiment beaucoup de gens se sont engagés parce qu'ils étaient absolument révoltés par la violence totalitaire qu'ils avaient en face. Et ce qui est arrivé aux femmes yézidis, c'est le sommet de cette violence misogyne et totalitaire. Donc il y a effectivement le personnage de Zahra, qui est une jeune yézidi que l'on suit de l'intérieur, vivre ses étapes. Mais très vite, elle rejoint la résistance, elle s'échappe et on bascule du côté de la lumière, de la résistance. Et je crois que les deux étaient importants pour moi, parce que j'avais besoin de cette énergie aussi positive dans le film.
Avec des portraits de femmes qu'on n'oublie pas, on continue d'en parler avec vous, Caroline Fourest, dans un instant.
Europe 1. Chaque dimanche, on vous retrouve, Patrick Cohen, avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Avec Caroline Fourest, réalisatrice de Sœurs d'armes, mercredi prochain sur les écrans qui montrent la résistance kurde contre Daesh, film qui exalte le combat contre la barbarie islamiste. Beaucoup de djihadistes ont été tués ou capturés, on le voit dans votre film, Caroline Fourest. Leurs chefs sont en fuite, mais Daesh n'est pas vaincu aujourd'hui.
Non, bien sûr. Et puis d'ailleurs, même si Daesh l'était, il y aurait d'autres groupes qui pourraient reprendre le drapeau de cette nostalgie de restaurer un jour le califat. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai voulu faire un film assez métaphorique. C'est une métaphore de la bataille entre les femmes et les Kurdes et tous ceux qui étaient à leur côté ou tous ceux qu'ils ont protégés contre les djihadistes nostalgiques du califat. Parce que même après la victoire militaire, la bataille culturelle continue. On sait bien qu'il y aura des attaques pendant encore des années. On sait bien qu'il y aura des groupes qui vont se reformer à partir de cette nostalgie. Et je pense que nous n'avons pas bien pris conscience, nous les démocrates, de l'importance d'utiliser la culture pour aussi essayer de continuer à faire triompher notre modèle de vie, notre modèle de société, qui est celui d'une société ouverte, qui est celui d'une société libre. Après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu 50 ans de films hollywoodiens qui ont permis de faire triompher une vision de la liberté. Nous, on est un peu naïfs. On a pensé qu'il fallait faire des émissions de débat face à des vidéos de propagande qui font des dégâts incroyables sur Internet, qui retournent le cerveau de nos jeunes. Et l'avantage qu'on a pourtant, c'est que les djihadistes sont nuls au cinéma. Ils ne savent pas faire du cinéma. Les djihadistes sont très bons pour faire des vidéos atroces, ils décapitent des gens. Ils n'ont aucun humour, ils n'ont aucune tendresse. Ils n'ont rien de ce qu'il faut artistiquement pour faire un grand film de cinéma. Par exemple, dans mon film, les djihadistes ne sont pas que des abominables, atroces et repoussants. On a un personnage, El Britanni, qui est assez pervers, assez angoissant, qui est assez séduisant aussi par moments, qui a des côtés complexes. Et il y a plusieurs profils même du côté de Daesh. Ça, je pense que c'est la générosité des artistes et des démocrates qu'ils n'auront jamais. Mais si en plus, cette générosité nous amène à la naïveté et au fait de ne pas comprendre que cette bataille culturelle, elle est là pour 50 ans et qu'il faut faire des films comme ça et qu'il faut aller les voir et qu'il faut qu'ils soient soutenus. Parce que je peux vous dire qu'il y a aussi une autre bataille qui est de sortir en salle, qui est de monter ce genre de film. Ça a été une bataille inouïe de monter ce film. Incroyable. Aujourd'hui, on est heureux, on y est arrivé. On est en salle, ceux qui l'ont vu dans les avant-premières nous disent que ça leur fait du bien, que ça leur donne de l'espoir, que ça leur donne de l'énergie. Mais il faut encore que le public vienne nous voir et vienne nous soutenir, parce que c'est ce film-là qui peut faire en sorte que de futurs jeunes s'identifient moins à Mohamed Merah que à Mira Kazar, Esther Guerel ou à Camilla Giordana et à toutes ces filles, toutes ces comédiennes qui représentent les héroïnes qui se sont battues pour nous.
Une bataille culturelle, donc, pour illustrer des batailles militaires, mais on voit qu'il ne suffit pas d'éliminer les djihadistes pour éteindre l'idéologie qui les anime. Est-ce que vous permettez que je me tourne vers le spécialiste des relations internationales qui est en face de vous ? Bonjour Bertrand Badie.
Bonjour.
Qu'est-ce qui pourrait mettre fin, du moins entraîner le déclin de cette idéologie meurtrière ? Parce que c'est de ça dont on parle avec Caroline Forest.
C'est une affaire de long terme, et on n'aime pas le long terme en politique. C'est une affaire de génération, parce que c'est une affaire, je dirais, de société. Ce sont ce que mon maître Émile Durkheim appellerait des pathologies sociales. Ces sociétés sont profondément malades, de différents maux qui viennent de loin dans l'espace et dans le temps. Je ne pense pas qu'il y ait de traitement militaire à ça. Et on ne répond pas à ce type de violence par un autre type de violence. Autrefois, on envoyait les armées contre des armées. Ce ne sont pas des armées. Il faut bien comprendre, ce ne sont pas des armées, parce que derrière, ce ne sont pas des États. Et donc, il y a un traitement social, pour employer une métaphore médicale, extrêmement long. Et nous sommes fatalement, une, et celle qui nous suivra, même chose, sacrifiée, dans la mesure où il faudra du temps long pour aussi effacer des décennies qui ont engendré frustration, incompréhension, haine, violence. Vous savez, tout ça ne naît pas de la tactique. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ce n'est pas un phénomène tactique. Ce n'est pas un phénomène d'individu. Ce n'est pas un phénomène de stratège. Il n'y a pas un mauvais monsieur qui tire les ficelles. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous ne le verrons pas.
Caroline Forest.
Il y a des milliers de causes sur lesquelles il faut agir. Malheureusement, il a quand même bien fallu, à un moment donné, une bataille militaire pour arrêter les moyens militaires qu'avait Daesh de nous envoyer des soldats. Parce que c'était quand même des soldats qu'ils envoyaient nous frapper au cœur de nos vies et de nos pays. Mais c'est sûr que ça ne suffit pas. C'est sûr qu'il faut aussi travailler sur la psychologie des êtres, parce que dans les soldats de Daesh, il y a des gens très équilibrés, très idéologues, et il y a des fous aussi qui dégoupillent suite à cette propagande. Il faut travailler sur le social, évidemment. Ça n'a jamais suffi. Il y a plein de gens qui sont pauvres et qui ne deviennent pas djihadistes. Et il faut travailler, peut-être que c'est ça qu'on a le plus négligé, encore une fois, sur l'intelligence culturelle. On a besoin d'héros positifs, on a besoin de s'identifier. Et moi, si je quitte un peu le journalisme pour devenir cinéaste, d'abord parce que c'est un rêve d'enfant que j'ai trop longtemps différé, que j'ai envie de retrouver, mais aussi parce que je pense que le journalisme aujourd'hui est un peu impuissant parfois face au drame que sèment les tueurs. On est un peu obligé de les héroïser malgré nous, parce qu'ils tuent, donc ils font l'actualité. Alors que comme cinéaste, on peut montrer tous les visages qui résistent et qui sont plus difficiles à mettre en valeur. Et surtout, on peut aussi s'éloigner de ce cynisme pour renouer avec pour combattre ce que mon ami Patrice Franceschi, qui s'est battu aux côtés des Kurdes et de ses femmes, et qui a été mon conseiller militaire sur le film, appelle le post-héroïsme. Nous sommes des sociétés qui avons renoncé à nous aimer, à aimer le modèle de société que nous représentons et à renoncer. Nous avons renoncé à l'héroïsme. Eux, non. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de films un peu idéalistes, un peu utopiques.
Avec des figures héroïques, des portraits de femmes qu'on n'oublie pas, je voudrais qu'on dise, pour finir, un mot sur elles. Camilla Jordana, Amira Kazar, la chef kurde, la lionne de Kobané, et puis celle qui incarne Zara, actrice kurde, avec ce visage absolument lumineux, ce regard triste et beau que les spectateurs de votre film n'oublieront pas, Caroline Forest.
Que vous ne verrez pas dans les médias français parce qu'elle est suédoise d'origine kurde et qu'elle ne parle pas totalement le français. Et pourtant, ceux qui la verront dans ce film, je pense, ne l'oublieront pas. Parce qu'elle a effectivement, d'abord, c'est une comédienne incroyable qui a un regard absolument sublime. Mais surtout, elle s'est investie dans ce film plus que comme une comédienne. Parce que Dylan, elle s'appelle Dylan Kotan Gwine. Son père, Orhan Kotan, est un très grand poète journaliste kurde qui est mort en exil. Et pour elle, ce film, c'était bien plus qu'un film. C'était être fidèle à son père, fidèle à ce qu'ont fait les Kurdes. Elle l'a porté avec une émotion qui, je crois, explose à l'écran.
Sœur d'armes par Caroline Forest, le produit de 3 ans et demi de travail, mercredi prochain sur les écrans. Merci beaucoup, Caroline.
Europe 1.
Et dans un instant, le retour de Bertrand Badie et la fin de l'hégémonie américaine.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen.
Le monde n'a plus de leader, la planète n'a plus de gendarmes. Les soldats américains, c'est un seul exemple, déployés à l'étranger, qui étaient plus d'un million au plus fort de la guerre du Vietnam, ne sont plus que 172 000, soit le chiffre le plus bas depuis la guerre de Corée. Faut-il s'inquiéter de la fin de cette hégémonie ? Nullement, répond notre invité, professeur des universités à Sciences Po Paris, grand spécialiste des relations internationales, qui décrit le grand chambardement du monde, Bertrand Badie. Vous publiez chez Odile Jacob « L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale », dont le point de départ, vous le dites, est un discours de Laurent Fabius en 2013. Il était alors ministre des Affaires étrangères, ça sonnait comme un cri d'alarme. « Le monde, disait-il en substance, risque de faire face à un grand désordre ».
Un cri d'alarme et un cri de nostalgie, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'Europe a toujours été en situation de proclamer son désir de souveraineté, d'exister, d'antériorité même sur les États-Unis. Et on voit là un ministre français des Affaires étrangères complètement désemparé à l'idée que, avec la nouvelle doctrine Obama, les États-Unis se retiraient, en tous les cas, essayer de mettre entre parenthèses leur leadership militaire, parce que Barack Obama a été le premier président des États-Unis à considérer que le leadership militaire ne se mariait plus avec son époque.
Et vous dites, cette fameuse hégémonie a-t-elle jamais démontré une seule fois dans l'histoire et dans sa durée la force de ses vertus? Alors, prenez le contre-pied radicalement inverse.
Oui, parce que c'est un vieux mot, hégémonie. Ça a été inventé par Thucydide, cinq siècles avant Jésus-Christ, dans un tout autre contexte, où on montrait comment les cités grecques avaient plébiscité Athènes pour les défendre face à la menace perse. Tiens, ça fait penser à quelque chose. Ça fait penser à 1947, quand les pays occidentaux plébiscitaient les États-Unis dans le cadre de l'Alliance Atlantique pour les défendre face aux dangers soviétiques. Ce qu'on oublie, c'est deux choses. La première, c'est que depuis Thucydide, toutes les tentatives hégémoniques, de Charles Quint à Napoléon en passant par Louis XIV, ont été défaites. L'hégémonie est une aporie, c'est-à-dire ne parvient pas à s'accomplir. Puis on oublie une deuxième chose, c'est que la bipolarité, la guerre froide, c'est une toute petite parenthèse dans l'histoire de l'humanité. 42 ans, 1947-1989, et même pendant cette époque, l'hégémonie n'a pas pu s'accomplir. Parce que derrière hégémonie, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'idée de conducteur, il y a l'idée d'être capable de produire un ordre international, pas seulement de réprimer, mais de produire un ordre international à l'image de ses valeurs. Et troisièmement, il y a le désir, c'est d'ailleurs le désir d'être conduit. Ces trois éléments ont été ruinés par tout un tas de facteurs que j'analyse dans mon livre, la décolonisation, la mondialisation. L'hégémonie aujourd'hui n'est plus possible. Si c'est plus possible, il faut penser à autre chose. Nouvelle forme de domination internationale.
Nouvelle forme de domination. Vous soulignez surtout que cette hégémonie n'a fait que nourrir les mouvements qui la contestent ou la combattent. Le désordre actuel, il résulte en grande partie de l'hégémonie qu'on a connue depuis 1945.
Alors n'abusons pas d'abord du terme désordre, chaos que l'on entend souvent, parce qu'on voit désordre lorsqu'on ne regarde pas dans la bonne direction. C'est-à-dire tout ce qui se passe est d'une évidence et d'une logique absolue. Et effectivement, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas tant l'hégémonie, mais la contestation de l'hégémonie. Qui a fait l'agenda international depuis l'an 2000 ou 2001, si vous préférez ? Est-ce que c'est les présidents des États-Unis ou est-ce que c'est un certain monsieur Oussama Ben Laden ? Qui a, en quelque sorte, été en position proactive, même si c'était dans l'horreur, et qui s'est réfugié dans le réactif ? C'est l'hégémone qui est dans le réactif. Donc, si l'hégémone est dans le réactif, ce n'est plus un hégémone.
Donc, le monde de demain ne sera pas hégémonique, il sera multilatéral ?
Alors, ça, c'est le scénario favorable. C'est-à-dire, ouais. effectivement, on s'aperçoit que nous sommes dans un monde de plus en plus interdépendant. Alors, M. de la Palice vous expliquerait que si on est dans un monde interdépendant, il faut que tous les acteurs s'accordent et gouvernent ensemble. Ce qui se fait dans pas mal de domaines. Hein. Si vous pouvez prendre l'avion, c'est grâce à cela, grâce à ce multilatéralisme, cette gouvernance mondiale. La guerre et la paix, c'est un peu plus compliqué pour la faire passer à la moulinette de la gouvernance mondiale. Donc, on peut espérer que le coût des guerres et des violences sera tel que les États préféreront abdiquer une part de leur souveraineté. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on n'est ni dans le multilatéral, ni dans le multipolaire. On est dans l'apolaire, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus véritablement de centre et où il y a des formes extrêmement variées de domination qui vont des tyrannies privées, des grandes entreprises multinationales, quelque part en Afrique, dans les lieux d'extraction minière, jusqu'à des formes tout à fait renouvelées de domination, comme par exemple celle de la Chine à travers la route de la soie. Ce n'est pas de l'hégémonie. Vous ne verrez pas un soldat chinois participer à une guerre régionale, quelle qu'elle soit. Vous ne verrez pas des politiques chinois essayer de convertir aux valeurs confucéennes les gouvernants africains ou asiatiques. Vous voyez, vous riez, donc vous comprenez bien le paradoxe. C'est néanmoins une forme de domination qui contesterait que la Chine a des moyens de domination sur le monde, mais complètement renouvelé par rapport au modèle hégémonique d'antan.
Mais il y a des formes de coopération internationale qui font un certain espoir, notamment dans la lutte contre le changement climatique, écrivez-vous, Bertrand Badie.
Oui, et puis pour une cause qui m'est encore plus chère, la sécurité alimentaire. Vous savez que chaque année meurent 6 à 9 millions d'êtres humains dans l'indifférence totale. Hein. 6 à 9 millions d'êtres humains, c'est-à-dire l'équivalent de faim. C'est-à-dire l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center. Là, il y a une possibilité de gouvernance mondiale. À partir du moment où on en prend conscience, on a pris conscience du danger du réchauffement climatique, qu'on prenne aussi conscience du danger que s'appelle l'insécurité alimentaire ou d'ailleurs l'insécurité sanitaire.
Bertrand Badie, l'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale, ça vient de paraître, ça paraît demain, non ? Chez Odile Jacob. Merci à vous Bertrand Badie.
Europe 1.
Dans un instant, André Manoukian nous parle de musique, d'histoire de la musique, de musiciens, de chanteuses, c'est particulièrement réjouissant.
Europe 1. C'est arrivé demain, se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
Demain, vous allez courir au Théâtre de l'Œuvre, rue de Clichy à Paris, pour entendre le chant du Périnée, une conférence psycho-érotique. Psycho-érotique et évidemment très musicale. Bonjour André Manoukian.
Bonjour Patrick.
Vous serez seul en scène avec deux claviers à nous raconter, non pas une histoire de la musique, mais des histoires de musique, de musiciens et de chanteuses, bien sûr. Je vous ai vu en répétition, c'est savoureux, érudit, plein de fantaisie. Mais il a fallu que vous mettiez un Périnée, de l'érotique dans le titre.
Eh bien, c'est... Voilà, parler de musique sans parler d'éros, c'est une faute majeure. Mozart, Beethoven, non seulement étaient de grands amoureux, mais si on va plus loin, quand on manipule la musique, on manipule au fond des ondes, et ces ondes provoquent ce que Deleuze appelait des affects, c'est-à-dire des transformations du corps. Et donc, il n'y a rien de plus, je dirais, corporel, rien de plus ancré dans la chair, et en même temps, rien de plus spirituel, c'est un vrai mystère.
D'ailleurs, comme vous êtes seul en scène, vous dites que ça vous donne l'impression d'être tout nu.
C'est ça. Alors, pourquoi je suis tout nu derrière un piano ? Parce qu'en fait, je me suis beaucoup caché derrière des chanteuses. Tout d'un coup, la chanteuse, quand je l'ai découvert, ça a été pour moi l'instrument idéal pour porter mes mélodies. Et en plus, avec tout le charme, je veux dire, c'est sûr que ça facilite les choses, ça aide. Et en même temps, je suis tombé amoureux fou de la voix. Quoi.
J'ai appris d'ailleurs que le pouvoir du chant, vous l'avez découvert sur le tard.
Exactement. Quand j'étais plutôt môme ou plutôt ado, ce qui m'intéressait surtout, c'était les instrumentaux. C'était ce qui se passait derrière le chant. J'étais capable d'écouter une chanson et je ne pouvais même pas vous raconter de quoi ça parlait, même si le texte était français, tellement j'étais focalisé que sur la musique. Je dis souvent, je ne faisais pas la différence entre Sheila et Stevie Wonder. Pour moi, c'était des chansons, ça n'avait aucun intérêt. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était les gammes un peu compliquées et c'est comment on fait pour improviser, comment on fait pour aller au bout de son instrument.
Et un jour ?
Un jour dans un studio, une rencontre, mais complètement par hasard, je suis en train de faire mon premier disque de jazz instrumental avec 6 cuivres, des musiciens grenoblois, donc vachement virils, poilus et tout ça. Et puis il y a une chanteuse, mais qui passe dans le studio par hasard parce qu'elle cherchait du boulot. Je la trouve super jolie et on était tous en train de s'engueuler pour savoir qui allait faire le prochain solo. Et moi, je dis, hé, les gars, et si on prenait la chanteuse? Les mecs, ils me regardent, ils disent, il est fou. Donc, on la rattrape, mais in extremis. Et je lui dis, bah, vas-y, improvise. J'avais rien de prévu. Elle se met à chanter. Oh, et là, bah, évidemment, je suis tombé amoureux. Ça a été la révélation, mais une rencontre, mais fulgurante, quoi.
Cette révélation soudaine dans un studio d'enregistrement, cela ressemblait à peu près à ceci.
You give me fever.
Non, c'est pas Nina Simone, mais c'est pas très loin du niveau de Nina Simone. C'est Elisabeth Contemanou, la voix qui, la première, vous a fait mouiller la moustache.
Incroyable, Patrick. Vous avez, voilà, c'est elle. Et imaginez quand j'ai entendu cette voix pour la première fois, et alors que je connaissais franchement rien aux chanteuses, il y a des rencontres comme ça qui se font. Puis là, je crois que j'ai saisi ma chance. Quand je suis rentré chez moi après qu'on l'ait fait essayer d'improviser et après qu'elle a improvisé plutôt très brillamment sur un de nos morceaux, je voulais mettre du chant partout et puis c'est parti, quoi.
Alors on apprend des tonnes de choses dans votre spectacle, André Manoukian, sur la musique orientale, le lien caché entre l'exécution de Robespierre, enfin la fin de la terreur, et la naissance du jazz avec des allers-retours entre Paris et la Nouvelle-Orléans. On en apprend sur l'obscénité de Beethoven quand il écrit sa lettre à Élise, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Élise, mais Thérèse.
Thérèse.
Pourquoi c'est obscène la lettre à Élise?
Parce que c'est le chromatisme. Mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi. On dirait qu'il tourne autour du pot. On dirait qu'il est en train de mater une meuf qui n'en peut plus. Et puis tout d'un coup, si, ré, do, la. Enfin, voilà. Alors évidemment, j'exagère un petit peu quand je le fais. Mais le chromatisme est un peu un artifice de charme qui est surtout utilisé par les romantiques. Le chromatisme, c'est quand vous jouez du demi-ton. Et d'une certaine manière, c'est très oriental aussi, parce que tout d'un coup, les orientaux, c'est encore pire parce qu'ils jouent avec les quarts de ton. Donc tout d'un coup, vous jouez de deux notes qui sont très voisines comme ça. C'est genre, c'est clairement une allusion sexuelle. Hein. Vous tournez autour du pot, vous n'en pouvez plus, vous êtes là. Vous... Et c'est ce qui me plaît finalement dans ce spectacle, aidé d'un clavier, c'est de montrer aux gens les premiers intervalles autorisés. C'était des intervalles de quinte, c'est-à-dire très martial. C'est le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, si vous jouiez un intervalle de tierce, oh, c'était beaucoup trop sensuel. Donc vous pensez, le chromatisme, là on est dans l'obscénité totale.
On apprend aussi que l'un des plus grands improvisateurs de l'histoire de la musique n'était pas un jazzman. Non, il était né au XVIIe siècle.
Jean-Seb, notre dieu à tous. Jean-Sébastien Bach.
Et par Glenn Gould. Les variations Goldberg.
Oh là là. Alors, rien que l'histoire des variations Goldberg, elle est fabuleuse parce que...
Non, pas la place.
Non, pas la place. Bon, tant pis alors.
Mais c'est
un étudiant de Bach qui est chargé tous les soirs d'endormir un riche mec qui s'appelle Goldberg et qui est insomniaque. Et le gamin, il n'en peut plus, il ne sait plus quoi jouer. Il dit à Bach, je t'en supplie, donne-moi des partitions. Et du coup, il n'y a plus d'enjeu, c'est plus des archevêques qui lui demandent de la musique, c'est plus pour Dieu, c'est pour endormir un gars. Du coup, Bach se lâche totalement et c'est ce qui fait la beauté des variations Goldberg, c'est qu'il lâche son génie alors qu'il était toujours un petit peu coincé par, je dirais, ses sponsors.
Et on a depuis... enfermé, cadenassé, cette musique-là, cette musique classique et tous les compositeurs de son époque et des siècles suivants, alors que Bach, lui, avait la liberté d'improviser.
Non seulement il avait la liberté d'improviser, mais ça lui a coûté son poste quand il avait 19 ans, parce que ses patrons, pendant la messe, lui disaient « Écoutez, c'est bien joli vos improvisations, monsieur Bach, mais on est dimanche, il n'y a pas que la messe, les gens, il faut qu'ils rentrent chez eux, manger le gigot, il y a tout ça à préparer. Alors essayez de nous faire des impros un peu plus courtes. » Et l'autre, il n'écoutait pas, il s'en foutait, et donc au bout d'un moment, il s'est fait virer. Donc, Mozart improvisait, Beethoven 80% de son œuvre, de ses concerts de piano solo, était complètement improvisé sur quoi ? Sur des airs d'opéra, c'est-à-dire sur des chansons populaires. Donc tous ces gars-là, en fait, ils faisaient de la pop. C'était la pop de l'époque avec la technique d'improvisation. On reconnaissait la qualité d'un musicien à ce qu'il était capable d'improviser. Fin du 19e siècle, on arrête tout. On prépare déjà la société industrielle. On dit maintenant, il y a un patron, c'est le compositeur. Vous, les musiciens, vous n'êtes plus que des exécutants. On arrête, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on désapprend une technique. On arrête d'apprendre l'improvisation aux musiciens et on n'en fait plus que des lecteurs.
La suite, c'est chaque lundi désormais au Théâtre de l'Œuvre à Paris, rue de Clichy. Venez nombreux. Merci beaucoup André Manoukian.
Merci Patrick. Europe 1.
Dans un instant, un autre cinéaste. Oui, deux cinéastes pour le prix d'un aujourd'hui dimanche. Christophe Honoré signe une fable sentimentale, chambre 212, avec Chiara Mastroianni. A tout de suite.
Europe 1, de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé demain sur Europe 1.
Ça commence comme un vaudeville, avec une maîtresse dans le placard ou derrière le rideau. Ça continue comme un drame sentimental, avec un couple qui se déchire. Et ça file ensuite comme un conte ou une fable, où l'héroïne se retrouve dans une chambre d'hôtel en face de chez elle, la chambre 212, confrontée à tous les personnages, tous les fantômes de sa vie amoureuse.
Parce que je m'autorise une fois un écart.
Maria, nous avons la liste de tous vos écarts.
Qui s'est permis de faire une liste de tous mes écarts ?
Maman ?
C'est moi qui tiens cette liste. Et crois-moi, ma fille, ça n'est pas de gaieté de cœur.
Mais maman, t'es morte.
La belle affaire. Ça m'empêchera pas de parler. Alors, je remonte à l'envers. Asdrubal Electora,
oui.
Issaka Kanté, Albert Hims, Pierre Mortemart.
Quoi ? Mais c'est son cousin ?
Oui, mon pauvre Richard était de Milan pendant vos vacances en Bretagne.
Bon, allez, stop, ça suffit. J'ai pas à endurer ça. Ton cousin, mais qui couche encore avec ses cousins après 14 ans ?
Bah, tout le monde, hein.
Chiara Mastroianni, Camille Cotin, Marie-Christine Adam, Vincent Lacoste et Benjamin Biolay dans l'un des films les plus originaux, débridés et séduisants de cette rentrée. Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
C'est vous qui avez aménagé et mis en scène cette chambre 212. Un conte, une fable ?
Un conte pour adultes, oui, ça me va tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est vraiment une histoire qui démarre comme un conte. Et si on faisait comme si ? Si on faisait comme si... On pouvait se retrouver soudain dans une chambre et que tous les gens qui ont compté dans notre vie sentimentale, amoureuse, venaient l'envahir, justement, cette chambre et venaient un peu raconter la trace qu'on a laissée dans leur mémoire. Donc c'est vrai que le film, il assume tout à fait un côté fantasy, un peu fantastique presque, mais sur des éléments très quotidiens et très universels.
Voilà, il y a les deux aspects, fantasy et fantastique. Un couple en crise, mais qui continue de s'aimer comme dans les grandes comédies américaines. Un homme et une femme qui rembobinent le film de leur vie, mais c'est un vrai film où les personnages du passé reprennent vie. C'est diabolique comme dispositif. Hein.
C'est le point de départ, en fait. C'est Chiara Mastroianni qui est en couple, effectivement, avec Benjamin Biolay. Et puis, elle décide de le quitter, on va dire. Et celui qui vient le lui reprocher, c'est le personnage de son mari, qui est normalement joué par Benjamin Biolay, mais qui, là, à 20 ans, est joué par Vincent Lacoste et qui est scandalisé par la manière dont se comporte sa femme 20 ans plus tard dans le futur.
À l'âge où il l'a connue, précisément. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous inversez les codes du marivaudage, parce que dans votre histoire, c'est Maria, Chiara Mastroianni, qui a multiplié les aventures et qui les assume, tandis que son mari, Richard, Benjamin Biolay, n'a connu, lui, qu'un grand amour de jeunesse, c'est-à-dire sa prof de piano, Camille Cotin.
Oui, pour le coup, dans ce couple-là, c'est la femme qui a le rôle du Don Juan. Après, c'est assez amusant, comment vous voyez, dans une histoire, en fait, à partir du moment où vous renversez, comme vous dites, un petit peu les clichés, parce que c'est quand même des clichés. On connaît plein d'hommes qui ne sont pas du tout Don Juan et on connaît plein de femmes qui, au contraire, sont très séductrices. Donc, ça se remarque, ça se note. Ce qui était sûr, c'est que je me souviens qu'avec Chiara, quand j'ai commencé à écrire l'histoire, je disais « Ah, j'ai envie de d'écrire un personnage qui est plein de mauvaise foi. » Et elle était assez ravie de ça, quoi. C'est-à-dire que c'est elle qui explique à son mari « Bah non, écoute, tu comprends, mon chéri, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, c'est normal qu'on ait des aventures à droite, à gauche, autrement on ne serait plus ensemble. C'est la loi des couples qui durent. »
Oui, elle dit ça avec un naturel confondant, effectivement. Et tout ce petit monde se retrouve dans un lieu clos, dans une même rue, la rue de l'Ambre, dans le quartier Montparnasse, au-dessus d'un cinéma, mais c'est comme au théâtre.
Oui, parce que... Parce qu'après, j'ai pris le motif de la chambre d'hôtel, en fait. Enfin, et puis, du coup, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui claquent. Et c'est vrai que le film assume, en fait, une espèce d'héritage de vaudeville.
Unité de lieu, unité de temps, hein, ça se passe en une nuit. Et des surprises dans chaque scène, je ne vais pas les dire toutes, mais apparaît un faux Aznavour en Jiminy Cricket. Une vraie Carole Bouquet qui nous éclaire sur le destin d'un des personnages. Vous ne vous êtes pas fixé de limite, Christophe Honoré, à votre imagination et à votre fantaisie?
Bah, je sortais moi d'un film qui était un film très important pour moi, assez personnel, mais assez douloureux sur mes années de jeunesse. Ouais. Et j'avais vraiment envie, du coup, d'un film qui raconte le plaisir de faire du cinéma. Parce qu'on oublie beaucoup aujourd'hui que le cinéma est quand même le lieu du plaisir. En tout cas, moi, quand j'étais adolescent et que je regardais les films, j'avais l'impression que c'était un monde merveilleux, en fait. C'est-à-dire que je n'allais pas au cinéma pour voir ma vie, mais pour rêver la vie des autres. Et donc, c'est vrai que ce film essaye comme ça de proposer au spectateur un principe de surprise permanente. Et grâce à ces acteurs-là, quand même, qui ont une grande force comique, de légèreté, mais aussi énormément de charme, de séduction, c'était assez agréable de faire un film de plaisir, oui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai envisagé.
Avec de grands inspirateurs dans vos remerciements de générique, c'est écrit en tout petit, vous saluez... Woody Allen, Bertrand Blier, Sacha Guitry et qui d'autre ?
Cary Grant, parce que je me souviens que j'arrêtais pas de dire à mes comédiens avant qu'on fasse le film, je leur ai dit regardez tous les films de Cary Grant et ce sera la meilleure manière en fait de vous préparer à ce film-là. Parce qu'il y a comme ça, chez cet acteur américain, une espèce d'élégance comme ça, de séduction, de glamour insensé, puis la petite fossette d'ironie permanente. Quelle que soit en fait l'implication qu'il a dans ses rôles, on sent toujours en fait que c'est un acteur qui est en train de s'amuser. Et je tenais beaucoup à ça, en fait, que les acteurs envisagent leurs personnages comme des gens qui, à un moment, s'amusent.
Chambre 212, un chiffre qui n'est pas tout à fait un hasard. C'est un article du Code civil, 212.
Oui, c'est quand on se promet fidélité et soutien entre mari et femme lors des unions civiles.
Respect, fidélité, secours, assistance. Voilà, article 212 et chambre 212 sur les écrans. Merci beaucoup, Christophe Honoré.
Bah, merci à vous.
Et merci de nous avoir suivis. Émission préparée par Marina Pruzès, réalisée par Guillaume Vasseau et Julien Blanc.